France Inter. Dorothée Barba.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Que peut faire une ville ou une entreprise afin d'être accueillante, vivable pour les personnes autistes? Une association à Limoges s'est emparée de cette question en créant un réseau des entreprises et villes amicales pour l'autisme. Elle vient d'écrire une lettre ouverte au maire de France à l'approche des élections municipales pour rappeler que la prise en compte de la neuroatypie devrait concerner toutes les communes. Cette association a toute la place dans notre semaine consacrée à la Haute-Vienne. Soyez les bienvenus.
Carnet de campagne, le journal des solutions.
Bonjour Maxime Jouot.
Bonjour Dorothée.
Bienvenue dans les carnets, merci d'être là. Vous êtes le président de cette association qui a été lancée à l'initiative d'un médecin, Geneviève Massé, et d'un collectif de bénévoles, avec notamment des parents d'enfants autistes. Vous êtes vous-même porteur d'autisme, Maxime Jouot. Est-ce que vous pourriez, pour commencer, me donner une situation, peut-être la plus récente, où vous ne vous êtes pas senti pris en compte dans une ville ?
Me concernant, il n'y en a pas énormément, étant donné que j'ai appris le cirque social. Et donc, je me sens un peu moins concerné par cette question, mais j'ai des amis et des collègues qui, tous les jours, sont confrontés à des situations un peu particulières. Il y en a qui me font très rire. Par exemple, un ami chef d'entreprise, la fois dernière, me racontait une expérience de recrutement. Et l'entretien se passe très bien avec cette personne autiste. Et puis, au sortir du rendez-vous, la question traditionnelle, est-ce que vous avez des questions ? Et la personne répond très franchement, est-ce que ça sentira toujours aussi mauvais dans votre bureau ? Et là, le chef d'entreprise, étant formé à l'autisme et sachant que cette personne était porteur d'autisme, c'est pas du tout offusqué.
Ouais.
Mais c'est vrai que ça aurait pu en faire vriller certains. Et en fait, c'est plutôt une preuve d'honnêteté, de franchise et de confort que de se permettre de poser cette question-là. Donc,
Et la réponse était oui, ça sentira toujours aussi mauvais.
La réponse est non, on va aérer.
Vous avez parlé de formation à l'instant et c'est intéressant. C'est bien toute la démarche de votre association, le réseau des entreprises et villes amicales pour l'autisme. Comment est née cette idée au départ, Maxime Jouot ?
Cette idée, elle est partie de plusieurs constats. Un des premiers constats, c'est que dans les écoles, le harcèlement des enfants autistes est prégnant. Il est hyper important. Moi-même, j'ai subi ça étant gamin. Et on s'est dit qu'une des manières pour pouvoir changer ça, c'était de faire de la sensibilisation dans les écoles. Et les résultats ont été fous. Ils ont été immédiats. Suite à, ne serait-ce qu'à une heure de formation devant les petits, on a de la bienveillance qui se met en place, de la compréhension. Et donc, on s'est dit qu'on allait essayer de changer le monde à notre échelle. Et comment changer le monde à notre échelle ? On s'est dit qu'on allait toucher les municipalités, qu'on allait toucher les villes. Dans le contexte municipal aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très, très important. Et donc, qu'on allait proposer aux municipalités d'agir pour l'inclusion. Ça vient du coup, comme vous l'avez dit tout à l'heure, de Geneviève Massé, mais ça vient de tout un collectif de gens constatant que sur les territoires, on a du mal à faire avancer cette culture de la neurodiversité, cette compréhension de ce qu'est l'autisme. Et donc, on allait utiliser ça, on allait motiver tout ce petit monde en faisant un argument électoral, mais pas que.
Oui, argument électoral, parce que vous proposez aux communes, très concrètement, d'être labellisées ville amicale pour l'autisme.
Oui, c'est ça. Alors, labellisées, non, parce que c'est le terme de label a un côté très
cadré,
juridique.
Ouais. Ouais.
Mais par contre, on leur décerne un titre de ville amicale. Et ce titre de ville amicale, il s'obtient par la réalisation d'un plan d'action qui suit un audit. Et ce plan d'action, il va prendre 1 an, 2 ans, et on va travailler avec les municipalités pour développer cette culture de la neurodiversité au travers de plusieurs axes, dont la formation des élus, dont la sensibilisation dans les écoles, mais aussi la formation des agents municipaux, par exemple, etc. etc.
Quels sont les points principaux des formations que vous évoquez ? Il s'agit, on l'imagine, de balayer certains clichés, certains stéréotypes ?
Oui, c'est ça. Alors, c'est toujours très drôle, mais il y a en effet beaucoup de débunkage. Pour ne pas tomber dans les clichés des médias, on a des personnes autistes de très très haut niveau qui sont des génies absolus, ou à l'inverse, on a des gens avec des comportements très stéréotypés, avec de très gros retards mentaux. Et finalement, le but, c'est de montrer que c'est une population qui est fréquente. Hein, ça concerne 1,7% de la population quand même. En France, du coup, ça fait plus d'1 million de personnes. Et qu'il ne faut pas grand-chose pour qu'une inclusion se passe bien et pour qu'il y ait une compréhension mutuelle. Les gens qui organisent cette formation sont par exemple Charles Durham, qui est psychologue américain et qui a passé sa vie à se former sur l'autisme et qui aujourd'hui prend un grand plaisir pour transférer cette connaissance.
Puisqu'on parle des idées reçues sur la neuroatypie et sur l'autisme, peut-être que certaines de ceux qui nous écoutent se disent « il n'a pas l'air autiste, cet invité ».
Eh bien oui, parce que je l'ai travaillé. En fait, j'ai commencé à vraiment apprendre le cirque social quand je suis arrivé au lycée et que je me suis dit « bon, là, il faut que je me fasse des amis, j'en ai marre de m'en prendre plein la figure ». Et donc j'ai appris. J'ai appris que regarder dans les yeux, c'était un signe de confiance et que même si c'est fatigant, même si c'est hyper exigeant, c'était quelque chose à faire. J'ai appris que parler de la pluie et du beau temps, c'était aussi un moyen de rassurer son interlocuteur et d'être sur une conversation non dangereuse. Et donc, on n'est pas obligé d'aller directement dans ses passions ou ses intérêts restreints et qu'il faut prendre un peu de temps. Voilà, tous ces petits cirques sociaux, on les accumule. Et après, du coup, on a une capacité à cacher un petit peu son autisme.
Quand vous apprenez le cirque social, comme vous dites, Maxime ouais. Jouot, finalement, c'est vous qui vous adaptez à votre environnement.
Exactement.
Ce que vous demandez, c'est que l'environnement s'adapte aussi à vous.
Oui, exactement. Que ça passe par des petits signes de où on vient un peu vers nous aussi. Mmh. Beaucoup de personnes autistes, par exemple, ont une très grosse sensibilité à la lumière. Et dans les entreprises, mettre des ampoules d'immeubles. C'est clairement d'immeubles où on peut modifier l'intensité de la lumière et puis que ce soit de la LED plutôt que du néon qui clignote et qui fait du bruit. C'est des toutes petites choses, c'est un micro-investissement pour une entreprise et pourtant ça change tout.
Le bruit, ça n'est pas un détail. Les communes peuvent s'engager pour plus de silence dans les espaces publics.
Oui, c'est ça. Déjà, il y a des magasins qui ont des heures chutes.
Des heures chutes.
Ouais, où ils vont proposer sur certains créneaux une absence de musique et puis surtout ils éteignent tous ces écrans publicitaires dans le magasin qui sont insupportables, vous connaissez dans les magasins de bricolage. et du coup les municipalités peuvent faire la même chose et même dans les musées aussi, on connaît des musées qui font ces efforts d'inclusion et donc qui vont avoir des périodes plus calmes avec aussi des salles de repos et tout ça. Donc ça c'est des choses qui sont portées par les mairies aussi.
Voilà, avoir un créneau silencieux dans une bibliothèque ou dans un espace communal, ça fait partie d'un plan d'action pour devenir une ville amicale pour l'autisme. Combien de villes aujourd'hui sont concernées, Maxime Jouot ?
Aujourd'hui, on a une vingtaine de villes, plutôt en Limousin.
Parce que la sauce est née à Limoges.
Oui, parce que la sauce, elle est née d'abord à Panazol, donc une petite ville périphérique de Limoges. Et aujourd'hui, Limoges et Limoges Métropole sont très impliqués dans le développement de l'association. Et en fait, cette région nous sert de laboratoire de test avec l'objectif de diffuser le modèle de l'association au national. Mais on a voulu avoir une approche pragmatique, une approche un peu de chef d'entreprise. Donc on fait la preuve de concept. Et puis, une fois que la preuve de concept est faite, on diffuse.
Alors justement, vous êtes chef d'entreprise, Maxime Jouot. Vous avez créé une entreprise de tests en cosmétologie, je ne dis pas de bêtises.
Oui, alors en partie, je fais de la recherche pour la pharma, la cosméto et l'agro. Mais plutôt que d'utiliser des tests traditionnels, on n'utilise que des méthodes numériques, des méthodes de modélisation moléculaire. Mes clients viennent me voir avec leurs molécules. On va les modéliser en 3D, les plonger dans des jumeaux numérique et on va prédire leur comportement et ça de manière que numérique. Donc on donne un côté éthique à la science où on va réduire l'expérimentation, dont l'expérimentation animale. Et puis on travaille à l'échelle atomique, ce qui expérimentalement est extrêmement dur à atteindre.
Donc, votre entreprise est-elle amicale pour l'autisme ? Il manquerait plus que ça.
Ouais, c'est ça, il manquerait plus que ça. Non, on est dans la science. Donc la science, c'est un vivier de personnes issues de la neurodiversité. Et donc, oui, que ce soit des gens diagnostiqués ou non diagnostiqués, on est tous un petit peu bizarres. Mais justement, ça fait un côté extrêmement bienveillant au sein de l'entreprise. Et du coup, je m'y sens bien et j'ai aussi l'impression que mes collègues s'y sentent très bien.
C'est un enjeu de diversité et d'inclusion, bien entendu, la neuroatypie. Est-ce que vous avez l'impression qu'elle est traitée au même titre que les autres minorité, si je puis dire.
Non, parce que une personne autiste ne se met pas souvent en avant. Et puis, on essaie de cacher le trouble au maximum. Et puis, il reste encore énormément de travail à faire sur la culture de la neurodiversité, sur la compréhension de ce que c'est. Et surtout, sur l'interprétation des comportements. Par exemple, une personne qui ne veut pas participer à la pause café, c'est pas qu'elle est asociable, c'est pas parce qu'elle a pas envie de discuter avec vous, c'est parce que c'est un environnement bruyant, ça va lui demander de la sociabilisation qui va lui coûter cher. Et donc, c'est aussi à apprendre à ne pas surinterpréter certains signes et à ne pas prendre tout ça pour soi.
Quand vous dites que ça va lui coûter cher, ça va l'épuiser concrètement ?
Oui, ça fatigue vraiment. On a un quota d'énergie et une interaction sociale, par exemple, prendre mon téléphone pour appeler mon opérateur téléphonique, j'ai déjà cramé un tiers de mon énergie.
Participer à une interview sur France Inter?
Ouais, exactement, je pense que je vais bien dormir ce soir.
Les entreprises amicales pour l'autisme sont-elles nombreuses aujourd'hui?
Alors c'est pareil, on a eu une vingtaine d'entreprises, dont des grands groupes. On a formé par exemple les RH de chez Orano. On a travaillé avec les managers de chez Leroy Merlin. Et les entreprises ont un gros rôle à jouer parce qu'elles vont accueillir du public, que ce soit les magasins, les grandes enseignes. Et puis elles vont aussi accueillir des ressources humaines. Et ce qu'il faut savoir comme chiffre un petit peu alarmant, c'est qu'il manque 80% des diagnostics adultes. Donc ça veut dire que même...
Comment ça, il manque ?
Il manque, bah, c'est qu'ils n'ont pas été diagnostiqués. Oui. Moi, j'ai été diagnostiqué sur le tard, hein, à 32 ans. Donc, ça veut dire qu'on a des collègues qui sont peut-être pas diagnostiqués et qui sont porteurs de ce trouble-là. Et en fait, le fait de former les cadres, de former les managers, ça permet aussi d'avoir une petite attention en se disant bah, peut-être que... un tel ou un tel, il est concerné, donc on va y aller mollo.
Qu'est-ce que vous avez envie de dire, Maxime Jouot, aux chefs d'entreprise qui ne se sont pas encore lancés dans ce combat, ou aux directeurs et directrices des ressources humaines? Pourquoi est-ce que c'est un enjeu essentiel?
Alors, pour parler en tant que chef d'entreprise et aux chefs d'entreprise, les intérêts sont multiples. La qualité de vie au travail, on en parle beaucoup, et ça, c'est un point notable qui va améliorer la qualité de vie au travail. Et puis, vous savez, une personne autiste, quand elle est bien inclue dans une entreprise, eh ben, elle est plus productive, elle est plus fidèle. Mmh. Donc, du coup, c'est plus de points de chiffre d'affaires pour une entreprise. C'est un peu bête comme argument, mais c'est un argument qui fonctionne.
C'est concret, c'est valable.
Exactement. Mmh. Et pour une ville, c'est exactement la même chose. C'est du mieux vivre ensemble, c'est une ville plus accueillante, c'est un territoire plus apaisé. C'est aussi des problèmes évités, par exemple, avec des policiers municipaux, des choses comme ça. Donc, il y a plein de choses qui sont faisables et qui vont améliorer la qualité de vie de tous.
J'imagine que c'est une question qui se pose souvent pendant les formations que vous proposez. Est-ce qu'il est important de les repérer, les personnes autistes? Est-ce que c'est nécessaire de savoir si un tel ou un tel est effectivement concerné?
Dans un monde idéal, je dirais que non. Dans un monde idéal, il n'y aurait même pas besoin d'aller chercher. On n'est pas dans un monde idéal. Et je pense que déjà, à titre perso, faire son diagnostic et avancer sur l'introspection et la compréhension de sa fatigue et de tout ce qui est lié à l'autisme... ça, c'est nécessaire. Et du coup, bah, accompagner des gens qui ne sont pas dans la connaissance de l'autisme et qui en souffrent, oui, ça, c'est une nécessité. Et donc, avoir une bonne compréhension de ce que ça peut être, bah, oui, c'est une nécessité. Et en fait, à partir du moment où on va travailler sur la culture de la différence, la culture de la neurodiversité et la bienveillance de manière générale, eh bien, du coup, c'est toutes les différences qui s'effacent et du coup, c'est la richesse de la société. Moi, je le vois au sein de mon entreprise, c'est-à-dire, oui, il y a des gens avec des troubles de la neurodiversité, mais on a aussi des nationalités différentes, on a aussi des façons de fonctionner différentes. Et en fait, toutes ces différences, ben, finalement, sont aujourd'hui quelque chose qui nous apporte plus de souplesse, qui nous apporte plus de richesse. Et donc, c'est extra.
Les associations disent souvent qu'en France, on a 30 ans de retard sur l'autisme. Ouais. Qu'est-ce qui signifie précisément ce retard? Est-ce que c'est une question, là encore, de stéréotypes ou de mesures concrètes?
Eh bien, il y a plusieurs choses. Alors, il y a évidemment la question de la culture, qui est notre axe principal. Mais il y a aussi les dispositifs, le manque de place dans les dispositifs. Ça, c'est quelque chose dont on souffre. Hein. J'en parle à l'échelle personnelle. Hein. Ça fait 5 ans qu'on nous dit qu'il y a 5 ans d'attente dans les dispositifs pour mon fils.
Votre fils aussi a été diagnostiqué.
Ouais, mon fils a été diagnostiqué et il souffre d'un trouble du spectre de l'autisme, en plus avec un bon TDAH. Et il aurait besoin de dispositifs. Et aujourd'hui, on n'a qu'un emploi du temps rustine avec plein de prises en charge partout. Et du coup, une vraie souffrance de son côté.
Donc le retard, il est là.
Oui, le retard, il est là. Le retard, il est aussi dans la formation des enseignants. Et je ne veux surtout pas leur reprocher quoi que ce soit, parce que la plupart font ce qu'ils peuvent. Mais du coup, le manque de moyens mis dans la formation, le manque d'accompagnement aussi, le fait de faire de l'inclusion un peu forcée, et du coup d'avoir des enseignants qui sont très livrés à eux-mêmes, où on leur dit, ben voilà, vous avez cet enfant, il va falloir vous en occuper, mais vous n'aurez personne. Ça, c'est compliqué.
De quoi êtes-vous fier, Maxime Jouot?
Ben, je suis fier de voir que les choses changent, que les choses évoluent, et que on a des recettes qui marchent. Et ça, c'est extrêmement plaisant de voir qu'on arrive à faire en sorte que des enfants ne souffrent pas autant que ce qu'on a pu souffrir étant gamin. Ça, c'est une vraie fierté. Et puis, de voir qu'avec un peu de courage et de bonne volonté, on arrive à changer les choses autour de soi. On en est fiers.
Et ça valait le coup, c'était cette interview épuisante
ça va.
Qui va vous faire bien dormir ce soir.
Oui, ça valait vraiment le coup, je vous remercie.
Le réseau des entreprises et villes amicales pour l'autisme, association basée à Limoges. Merci beaucoup Maxime Jouot.
Merci à vous Dorothée.